Ça fait longtemps que je ne me suis pas retrouvé comme ça devant vous, et ça me fait plaisir de le faire à nouveau. Dernièrement, j'ai vécu une expérience assez marquante au travail que j'aimerais vous raconter. On a eu une jeune fille d'elle est 13 ans, si je ne dis pas de bêtises, à peu près, qui est placée dans une famille d'accueil. Et puis il y a eu une situation de violence dans cette famille d'accueil, ce qui fait qu'elle est venue dans notre foyer, ce qu'on appelle en time-out, c'est-à-dire une mise à l'écart pour un temps donné, pour 3-4 jours, comme ça. Et puis, ça s'est très bien passé hein, dans notre foyer, là, pendant ces 3-4 jours, ça s'est très bien passé, jusqu'au moment où le papa d'accueil est venu la rechercher. Et on a senti que ça changeait, hein, qu'elle n'avait plus la même attitude, qu'elle était beaucoup plus fermée. Et quand ce père d'accueil est arrivé, elle allait dans son lit. Elle s'est retournée contre le mur, en boule, comme ça. Alors que le père d'accueil est venu la chercher, tout sympa, content de la revoir, plein d'amour. Hein. C'est pas juste un travail qu'il faisait sans s'impliquer. Impossible de relier une relation à ce moment-là. Cette jeune fille, elle refuse de parler, elle refuse la relation. Elle reste bloquée dans sa souffrance, dans sa solitude. Et elle ne cherchait pas la solution. Moi, ça m'a touché de la voir comme ça. Il faut penser que c'est une fille qui a vécu énormément de souffrance. Hein. Elle est placée en famille d'accueil depuis qu'elle est toute petite. Et depuis 5-6 ans, sa maman refuse de la voir. En gros, sa maman a décidé qu'elle ne serait plus la maman de cette jeune fille. Vous pouvez imaginer ce que ça représente pour une fille de 13 ans de se retrouver en famille d'accueil avec sa mère qui refuse de la voir et le père, on ne sait même pas trop qui c'est. Et en même temps, il y a une famille d'accueil qui est aimante mais qui renvoie aussi une image, une famille un peu idéale comme cette jeune fille aimerait certainement avoir. Et là, on se retrouve avec cette fille qui a été mise à l'écart. Alors oui, elle était violente, c'est des situations inacceptables, mais qui a été rejetée, encore une fois, par cette famille d'accueil. Sans critiquer, hein, mon but n'est pas de critiquer là ce qui a été fait, c'est juste dire, mais il y a une violence qui est inouïe pour cette fille. Et elle se retrouve toute seule, elle se retrouve avec sa souffrance, avec ses blessures, avec ses frustrations. Et elle est incapable de renouer avec son père d'accueil. Elle est incapable de faire ce pas, de retrouver l'amour, l'acceptation. En l'occurrence, il y a eu besoin d'une collègue pour la faire s'exprimer. Cette collègue est allée seule vers cette jeune fille. Et là, elle a lâché la fille. Elle s'est mise à pleurer. Elle a lâché la pression. Elle a pu exprimer ce qu'elle avait sur son cœur. Et ensuite, elle a pu partir, retourner à la famille d'accueil. Enfin, c'est cette collègue qui a dû la ramener. Et j'ai eu après la suite de l'histoire. Parce que moi, j'avais un peu de soucis. Je me disais, mais comment ça va se passer dans cette famille d'accueil avec une jeune fille qui ne veut pas s'exprimer, qui a été violente, etc. Et en fait, j'ai eu un très beau récit où la maman d'accueil, le soir, hein, simplement en faisant des choses, a pu dire à cette jeune fille, mais tu sais, moi, je t'aime, je suis content de te retrouver et j'aimerais te faire un câlin. Et là, la fille s'est lancée dans les bras, cette maman. Et elle a pu pleurer. Et puis le papa a dit, mais moi aussi je t'aime, j'aimerais aussi un câlin. Et ils ont pu faire un câlin à trois. Alors ça paraît juste un câlin, mais il y avait bien plus que ça. C'était la relation qui est rétablie. C'est cette jeune fille qui est soulagée de se dire, mais c'est bon, je ne suis plus rejetée, je suis aimée, je suis acceptée. C'était « je peux compter sur eux, j'ai un endroit où je suis en sécurité ». Alors tout ça, c'est une histoire, une belle histoire qui se termine bien. Alors je pense qu'il y a encore bien des défis pour cette jeune fille, pour cette famille d'accueil. Mais c'est une histoire qui se termine bien actuellement et qui m'a beaucoup interpellé parce que je pense que bien souvent je suis cette jeune fille. Je suis cette jeune fille recroquevillée dans mon coin, incapable de voir une issue dans les difficultés que je peux vivre. Coincé dans mes difficultés, tellement blessé que je refuse l'aide, tellement peut-être dans une position de victime que je ne refuse qu'on m'aide, que je ne veux pas, inaccessible pour recevoir de l'aide, hein, avec cette idée, j'ai besoin d'aide, je ne l'accepte pas. Besoin d'aide que je refuse de la part de mes proches, mais peut-être de Dieu lui-même. Enfin, c'est peut-être que moi qui fonctionne comme ça, mais j'ose imaginer que je ne suis pas le seul. Cette position, hein, où on se tourne contre le mur, en boule, quelque part, ça peut ressembler à de la bouderie, hein. On veut boude, on veut vous par personne. Mais je pense que c'est plus profond que ça. Et puis moi, ça me fait penser à l'histoire d'Anne, la mère de Samuel. Et j'aimerais lire ça dans 1 Samuel, au chapitre 1. À Rama de Souf, dans la région montagneuse d'Éphraïm, il y a un homme qui s'appelle Elkana. C'est un Éphraïmite. Il est fils de Jéroam et petit-fils d'Éliou, lui-même fils de Tohu et petit-fils de Souf. Retenez bien les noms, il y a un test à la fin. Elkana a 2 femmes, Anne et Pénina. Pénina a des enfants, mais Anne n'en a pas. Chaque année, Elkana quitte Rama pour aller à Silo. Là, il adore le Seigneur de l'univers et lui offre des sacrifices. Ophni et Pinhas, les 2 fils d'Eli, sont prêtres du Seigneur à Silo. Le jour où Elkana offre le sacrifice, il donne des morceaux de l'animal offert à sa femme Pénina. Il en donne aussi à tous ses fils et à toutes ses filles. Mais Elkana donne un morceau bien meilleur à Anne, parce qu'il l'aime beaucoup. Pourtant, le Seigneur ne lui a pas donné d'enfant. Pénina, l'autre femme, n'arrête pas de blesser Anne par ses paroles. Elle se moque d'elle parce que le Seigneur ne lui a pas donné d'enfant. Chaque année, c'est la même chose. Quand Anne va à la maison du Seigneur, Pénina lui dit des paroles blessantes. Un jour, Anne se met à pleurer et elle refuse de manger. Elkana, son mari, lui dit « Anne, tu pleures pourquoi donc ? Pourquoi est-ce que tu ne veux rien manger ? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils ?» Après le repas à Silo, Anne se lève. Le prêtre Eli est assis sur son siège à l'entrée du lieu saint. Anne est très triste. Elle prie le Seigneur en pleurant beaucoup. Et voici la promesse qu'elle fait. « Seigneur de l'univers, je t'en prie, vois mon malheur. Souviens-toi de moi, ne m'oublie pas. Donne-moi un garçon, je promets de le mettre à ton service pour toujours et on ne lui coupera jamais les cheveux. » Anne prie le Seigneur longtemps. Élie la regarde, Anne parle dans son cœur, ses lèvres remuent, mais on n'entend pas sa voix. Élie croit qu'elle a trop bu. Il lui dit « Est-ce que tu vas rester longtemps ainsi ? Tu as trop bu, sors d'ici !» Anne répond « Non, je ne suis pas ivre, je suis une femme malheureuse, mais je n'ai pas bu. Je suis ici pour dire au Seigneur ce qui me fait mal. Ne me prends pas pour une femme qui ne vaut rien. Je suis trop malheureuse et trop triste. Voilà pourquoi j'ai prié si longtemps. » Alors Élie répond « Va en paix et que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. » Anne lui dit « Reste toujours bon avec moi. » Et Anne s'en va. Elle accepte de manger. Son visage n'est plus triste. Le jour suivant, tôt le matin, Elkana et sa famille vont adorer le Seigneur. Puis ils retournent chez eux à Rama. Elkana s'unit à sa femme Anne et le Seigneur écoute la prière de celle-ci. Anne devient enceinte, puis elle accouche d'un garçon. Alors elle dit « Je l'ai demandé au Seigneur, c'est pourquoi je lui donne le nom de Samuel. » C'est une belle histoire qu'on connaît certainement tous, hein, qu'on a déjà lue plusieurs fois. Et moi, ça me parle beaucoup. On a une famille là, une belle famille qui aime Dieu, famille qui est attachée à Dieu. Ils n'iraient pas tous les ans à Silo au temple si ce n'était pas le cas. Hein? Ils vont au temple pour prier, ils tiennent à ça et c'est important pour eux. On voit qu'ils ont une manière de faire confiance à Dieu, de chercher à honorer Dieu. Ça, c'est ce que moi je comprends dans cette histoire. Hein? Comme beaucoup d'entre nous, comme pour beaucoup d'entre nous, c'est important de venir à l'église, c'est important de prier, c'est important d'honorer Dieu, de chercher à faire confiance à Dieu. Et c'est une famille qui est remplie d'amour. Elkana exprime son amour pour Anne, parce qu'il l'aimait beaucoup, c'est dit dans le texte, au verset 5. On voit qu'il y a un réel attachement de cet homme envers sa femme. Et en même temps, c'est une famille polygame, avec tous les conflits et toute la jalousie qu'on peut imaginer, enfin qu'on voit dans ce texte, très clairement, Peninnah qui jalouse Anne parce qu'elle est aimée par son mari, et en même temps qui se sent supérieure parce qu'elle a des enfants. Et alors, ça me parle peut-être un peu moins directement, cette question de polygamie. Par contre, cette famille pleine d'amour, mais avec des difficultés, avec des conflits, avec de la jalousie. Ça me parle beaucoup de nos familles, non? Moi, je peux clairement m'identifier là, dans tout ça. Et ce que je veux dire par là, c'est que si on nous parle d'une histoire qui paraît bien lointaine, ne serait-ce qu'à cause des noms bizarres, des lieux et des personnes, eh bien, en fait, moi, je vois la description d'une famille comme vous, comme moi. Une famille qui aime Dieu, qui cherche à servir Dieu, qui connaît Dieu. Une famille qui s'aime. Une famille qui lutte parfois. Et puis, en avançant dans le texte, on voit cette première partie avec toute la question de la stérilité pour Anne, mais avec toutes les frustrations et toutes les blessures qu'il y a autour. Elle devrait être heureuse, Anne. Elle a un mari qui l'aime, avec des moyens de vivre. Visiblement, c'est une famille qui peut se permettre de partir plusieurs semaines à Silo chaque année. Donc, ils ont quand même les moyens de le faire. Ils ont les moyens d'avoir de la viande pour offrir les sacrifices, ce qui n'est pas rien. Ils connaissent Dieu et ils le servent en famille. Anne a tout ce qu'il faut pour être heureuse. Mais il y a ce gros point noir, et peut-être ce double point noir, la stérilité. Le texte dit qu'elle est aimée, ça sort moins dans cette version, mais il dit qu'elle est aimée malgré sa stérilité par Elkana, par son mari. Et c'est une pression énorme qui est sur cette femme. Énorme. Ça sous-entendrait qu'elle a de la chance d'être aimée alors qu'elle n'a pas d'enfant. Vous voyez ce que ça signifie? Pour être aimée, je dois avoir des enfants. Ça l'atteint clairement dans son identité. J'imagine les questions qu'elle peut se poser. Mais à quoi je sers si je ne peux même pas avoir d'enfants? Alors on est bien d'accord que je parle du contexte de l'époque quand je dis ça. Ne croyez pas que je suis en train de parler du fait d'avoir des enfants ou non aujourd'hui. Je parle vraiment du contexte biblique là. J'imagine ces questionnements, à quoi je sers? Je ne suis même pas capable d'avoir des enfants, de donner des enfants à mon mari. Il a dû se marier une deuxième fois pour avoir des enfants. Vous imaginez le sentiment là qui grandit? Sentiment d'être bon à rien, de rien savoir faire, de ne pas être capable. Et puis vous voyez les conflits avec Peninnah. C'est certainement la deuxième femme d'Elkana, Peninnah. Vous imaginez la blessure déjà d'Anne, son mari qui prend une deuxième femme, et cette femme qui arrive à avoir des enfants, et cette femme qui va me rabaisser systématiquement parce que j'ai pas d'enfants, parce qu'elle voit bien que Elkana m'aime, moi. Mais tous les jours, ou en tout cas tous les ans, régulièrement, cette femme, elle vient, elle m'humilie, elle me rabaisse, elle se moque de moi. Vous voyez les blessures que ça creuse? Vous voyez les frustrations qu'il peut y avoir chez Anne en lien avec ce problème? Et on peut imaginer, on voit hein, ce comportement, les effets que ça a sur son comportement. Elle se ferme. Elle se ferme. Elle se tourne vers elle-même. Elle pleure, elle ne mange plus. Elle n'arrive plus à être en lien avec son mari. On voit hein, que son mari ne comprend pas. Mais pourquoi tu pleures? Franchement, moi je suis là. Elle n'arrive plus à être en lien avec son mari. Et on voit que vis-à-vis de Dieu, c'est aussi compliqué. On voit, il est dit hein, que Pénina cherchait à l'irriter contre Dieu parce qu'il l'avait rendue stérile. Et il y a toutes ces problématiques quand il y a toutes ces frustrations, toutes ces blessures, toutes ces sentiments, ces émotions négatives vis-à-vis de soi. Comment j'arrive encore à être en lien avec Dieu? Comment je peux encore être en lien avec Dieu? Vous voyez que ce tableau que je dresse de Anne, eh ben je vais me l'appliquer à moi-même. Et je vous encourage à le faire aussi. Il y a cette notion de stérilité, hein, avec toutes les souffrances que ça peut représenter pour ceux et celles qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. On sait hein, aujourd'hui clairement les souffrances que ça peut représenter quand on parle de la stérilité au niveau littéral. Mais j'aimerais qu'on élargisse un peu ce contexte, ce mot. Pour moi, ça me parle de projet, de rêve, d'envie, d'aspiration. Ces rêves inaboutis, inaccessibles. Ces projets que tu essayes de mettre en place, mais que ça bloque toujours. Tu n'arrives pas à porter du fruit. Tu n'arrives pas à porter du fruit avec ce projet, avec cette envie, avec ces difficultés-là. Et pourtant, ça reste toujours là au fond de ton cœur, cette envie, cette aspiration de dire « Mais c'est là que je veux aller, c'est ça, je crois que c'est ça que Dieu a mis en moi, c'est ça, à ça que Dieu m'appelle. » Mais boum, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Encore, encore, encore. Et les blessures, les frustrations que ça crée, elles sont pas petites, hein, elles sont énormes. De nouveau, les blessures dans l'identité, mais à quoi je sers si je ne peux même pas faire ça, ce que Dieu me demande? En fait, je suis incapable. Je ne suis pas digne de confiance. Toutes ces phrases que certains d'entre nous, voire tous, on a pu se dire une fois ou l'autre. Ces grands mensonges qu'on a pu se dire. Avec un manque de sens aussi, mais si je n'arrive pas à accomplir ce qui est tellement important, ce qui est tellement important parce que c'est ce qui correspond, ce que je crois que correspond à ce qui est au plus profond de moi, finalement, à quoi bon si ça, je ne peux pas l'accomplir? Mais avec toute une incompréhension peut-être, un écart entre ce que je crois être mon appel, ce que je crois que je dois mettre en place, et puis la réalité où, non, ça ne marche pas. Pour X raisons, hein, par manque de temps, par manque d'investissement, par manque d'énergie, par manque de compétences. Je ne sais pour quelle autre raison. Et là, je peux avoir différentes réactions. Et là, on va réagir tous différemment. On peut bouder. Si c'est comme ça, je reste dans mon coin. On peut s'isoler. On peut ne plus rien faire. Se dire, moi, je profite de ma vie. Hein. Je vais au boulot, je vois mes amis, je sors, je me fais plaisir. Mais je renonce à porter du fruit. Je renonce à ce projet, à ce rêve qui était tellement essentiel pour moi. Annelle aurait pu faire ce choix hein, de se dire, ok, je renonce à avoir des enfants, c'est douloureux, mais quelque part je fais le deuil de cela. Et puis je suis contente parce que, comme je le disais avant, j'ai quand même un mari qui m'aime, on a une belle vie de famille, je peux m'engager pour les enfants de mon quartier, je peux développer je ne sais quoi d'autre, etc. Et c'est des belles choses, c'est des bons projets. Mais elle n'a pas renoncé à ce qu'il y avait au plus profond de son cœur. Et je pense que ça, c'est un grand risque. c'est que on prenne cette position, hein, dans son lit, contre le mur, je m'isole. Parce que c'est trop dur. Et je ne veux pas me confronter à tout ça. Et je pense que vous pouvez tous imaginer, hein, comment est-ce que vous réagissez dans ces conditions, dans ces circonstances-là. Parce qu'on a tous vécu, plus ou moins fortement, ces périodes de vie, ces difficultés. Et c'est là qu'on va assister dans le texte à ce retournement. Ce retournement au moment où Anne va au temple. Alors ils y sont déjà, on est d'accord, mais elle va quelque part, elle se met un peu à l'écart, elle va prier. Mais pas juste prier. Elle prie, elle pleure, elle se lamente, elle supplie Dieu, elle fait un vœu, hein, cette sorte de promesse qui est des fois un peu particulière dans l'Ancien Testament, hein, c'est « si tu fais ça, alors je ferai ça ». Des fois, ça nous choque un peu parce qu'on a l'impression de voir un peu du chantage. On se dit, mais est-ce que je peux faire du chantage avec Dieu? Il faut le comprendre dans la culture hébraïque. Hein, c'est vraiment cette sorte de promesse, dire, mais je veux tout donner, mais j'ai besoin que toi, tu m'aides. Et quelque part, elle répand son cœur devant Dieu. Peu importe les apparences, peu importe ce que ça peut donner comme impression, je fais sortir tout ce qu'il y a dans mon cœur. Et ça, je pense que c'est tellement fort ce qu'elle fait. Parce que des fois, la prière, on se dit, mais transforme ta situation en prière. Et je pense que c'est très fort, très, très bien. Mais des fois, c'est trop facile. Parce que la prière peut être trop rapide, trop facile, elle implique peu. C'est juste, bah, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Seigneur, donne-moi la solution. Vous voyez ce que je veux dire par là? Ça ne me demande pas beaucoup. Et parfois, je dis juste ça, mais sans que ça m'implique vraiment, sans que je sois prêt à changer. Un peu comme si la jeune fille dont je parlais au début était repartie dans la famille d'accueil sans pouvoir exprimer profondément ce qu'elle avait besoin d'exprimer. Comme si de rien n'était. Anne, elle va vivre ses émotions, cette profonde tristesse qu'il y a en elle, hein. Au verset 16, elle dit « Mon cœur débordait de chagrin et de douleur. » Et elle va oser vivre ses émotions avec Dieu. Elle va pouvoir pleurer, elle va pouvoir les exprimer verbalement, mais aussi physiquement. Là, moi, je vais plus loin que le texte, mais je l'imagine par terre, à genoux, couché, je ne sais pas. Mais vous savez, un peu ces tremblements, comme quand on pleure. Mais moi, j'imagine vraiment de la voir comme ça, à tel point qu'Élie l'a remarqué. Alors le texte dit qu'il l'a juste remarqué parce qu'il voyait juste sa bouche bouger et qu'il n'y avait pas de son. Moi, je trouve ça un peu léger, j'aime bien imaginer plus grand. Vous m'excuserez si je suis un peu moins biblique sur ce plan-là. Vous voyez ce que je veux dire par là? En fait, elle va sortir tout ce qu'il y a dans son cœur. En verset 11, il dit « Mais considère la misère de ma situation. » Et ce n'est pas juste « Seigneur, tu connais ce que je vis, aide-moi. » Il y a un autre exemple dans la Bible, dans Ésaïe 37. C'est Ézéchiel qui est le roi d'Israël à ce moment-là et qui est envahi par les ennemis. Et puis, il reçoit une lettre d'insulte, de menace, qui va le détruire. Qui va dire, mais fou. Et il va prendre cette lettre. Il va au temple. Il s'agenouille, il ouvre la lettre. Et je trouve que c'est une très belle image, ça. C'est il sort tout ce qu'il y a sur son cœur. Il monte la lettre à Dieu. Et c'est pas juste, tu connais ma situation, aide-moi. C'est, voilà où j'en suis, profondément. Et là aussi, ça m'interpelle sur moi-même. Hein. Quand je suis, déjà premièrement, hein, quand je suis dans cette situation difficile, retourne recroquevillée sur moi-même, que je refuse l'aide, comment est-ce que je peux aller vers Dieu? Qu'est-ce que je fais pour aller vers Dieu? Anne, elle est allée au temple. Comment est-ce que moi je vais au temple? Comment est-ce que je vais dans la présence de Dieu? Et comment est-ce que je présente ma situation à Dieu? Est-ce que je prends ma lettre et je la déroule devant Dieu? que j'expose tout ce qu'il y a au fond de moi à Dieu? Est-ce que je lui ouvre mon cœur? Et est-ce que j'ose vivre mes émotions devant Dieu? C'est quand la dernière fois que tu as pleuré avec Dieu? C'est quand la dernière fois que tu as osé sauter de joie avec Dieu? C'est quand que tu as osé trembler devant Dieu parce que tu avais peur? C'est quand que tu as osé crier contre Dieu parce que tu étais trop fâché? Et là, moi, je me laisse interpeller profondément. Parce qu'on est dans une société où déjà, on a souvent de la peine à exprimer vraiment nos émotions. Hein. Souvent, on va les cacher un peu. Est-ce que j'ose célébrer quand je suis vraiment joyeux? Est-ce que j'ose pleurer, exprimer profondément ma tristesse? Est-ce que j'ose avoir peur et le dire? Est-ce que j'ose crier quand je suis en colère? Alors, si possible, pas faire mal ou casser quelque chose, je suis d'accord, mais est-ce que j'ose exprimer ce qui est au fond de moi? Mais si je vais plus loin, est-ce que j'ose le faire avec Dieu? On a un magnifique exemple d'Anne qui le fait. Et je crois que si on veut être entier avec Dieu, si on veut être tel qu'on est, on a besoin d'aller exprimer ses émotions avec Dieu. Et puis on voit que tout ça, ça porte des beaux fruits. Hein. Dans le texte, Anne va recevoir une parole de bénédiction d'Élie. Et comme c'était le grand prêtre à ce moment-là, que pas recevoir cette parole de bénédiction, c'est presque recevoir une parole de bénédiction de Dieu directement. Mais direct après, elle repart et elle mange. Là, le texte disait qu'elle avait plus son regard de tristesse, hein, je ne sais plus les mots exactement, et elle mange. C'est juste énorme. Elle passe de ce côté où je suis recroquevillé contre moi, je ne peux plus manger, je ne peux plus rien faire, à je retourne à la maison et je mange. Et ensuite, elle va pouvoir adorer Dieu en famille. Alors qu'elle allait dans son coin parce qu'elle avait besoin de pleurer devant Dieu, ensuite, elle est en famille pour louer Dieu. Et puis la suite, elle est belle aussi. Elle s'unit avec son mari. Elle recrée un lien avec son mari. Alors qu'elle n'arrivait plus, il s'engueulait juste avant. Il n'arrivait pas à comprendre la blessure, la tristesse de sa femme. Et là, ils sont à nouveau unis. Et puis elle va tomber enceinte. C'est la naissance de Samuel qui va être un immense juge, un immense prophète. C'est juste énorme ce qui se passe. Et moi, je vois là les fruits de son changement d'attitude, de « je me recroqueville contre moi-même, je refuse la relation, je m'isole, à je m'ouvre, je vais chercher de l'aide, j'expose vraiment ce que j'ai au fond de moi, je réponds mon cœur devant Dieu. » Alors, j'aimerais pouvoir vous dire, voilà l'exemple à faire et on obtiendra tout ce qu'on veut. C'est pas du tout mon propos ce matin, pas du tout. Ce n'est pas du tout une promesse d'exaucement ou de pouvoir obtenir tout ce qu'on cherche ou d'avoir les solutions faciles à tous nos problèmes, loin de là. C'est plutôt une interpellation. Dire, mais quand je vis quelque chose de difficile, est-ce que j'arrive à transformer ma stérilité, mes difficultés, mes blessures en prière? Est-ce que ces prières reflète profondément ce qu'il y a au fond de moi? Ou est-ce que je reste assez en surface? Un peu comme des fois on peut communiquer entre nous parce qu'on n'a pas envie d'aller exposer ce qu'il y a trop profondément en moi. Est-ce que mes prières reflètent la surface ou ce qu'il y a au fond du cœur? Alors c'est vraiment cette interpellation-là, mais aussi une conviction. Une conviction que Dieu nous accueille quand on ouvre notre cœur. Et s'il y a une personne qui est capable d'accueillir tout ce qu'il y a au fond de nous, c'est bien lui. C'est bien lui. Que ce soit beau ou moche, ce qu'il y a au fond de nous, s'il y a une personne qui peut l'accueillir, c'est bien lui. Et je suis convaincu aussi que Dieu honore cette attitude et qu'il nous accompagne quand on le fait. Et que c'est une clé pour débloquer nos situations. C'est pas la recette miracle, mais c'est une clé pour débloquer les situations. Parce que quand je suis recroquevillé sur moi-même, rien ne peut se passer. Quand je m'ouvre, alors les choses peuvent se passer. Parce que je peux de nouveau être en lien, parce que j'ose espérer à nouveau, et parce que je peux laisser Dieu agir. Alors ça, c'est les interpellations que j'ai envie de nous laisser à chacun de nous. Parce que les situations compliquées, on les vit tous à un moment ou à un autre, plus ou moins profondes ou pas, plus ou moins stériles ou non, je ne sais pas, on les vit. Et qu'est-ce que je fais de tout ça? Il y a maintenant une quinzaine d'années, quand j'étais parti avec Jem, on avait enregistré une chanson qui s'inspirait complètement de cette histoire d'Anne. Et je vous propose qu'on puisse passer cette chanson et puis qu'on puisse prendre ce temps avec Dieu en disant, ben voilà, où est-ce que j'en suis? Et puis pouvoir parler à Dieu simplement de la manière dont on le désire. Et puis, ensuite je laisserai la parole à Karine. J'aimerais simplement aussi dire que je prie volontiers avec les personnes qui le souhaitent en lien avec ce que j'ai pu partager ce matin.